ça se reconnaît en écologiste.
Avec tous ces oiseaux à la con, ils ont 5 ans.
CO2.
Ça a des lunettes, ça a une barbe, ça a un caoué.
En amour.
Tu préfères les bagnoles ?
Peut-être.
Denis Chessou.
C'est une recette du pays.
Sans produits chimiques, il n'y a jamais de contre-indication.
Bonjour à tous, bienvenue dans CO2 Mon Amour, l'émission qui empêche de polluer, de réchauffer, de penser en rond, en tout cas qui essaie et qui prend le temps de ne pas aller vite avec aujourd'hui Gaël Braouzec et Florent Lagani à la technique et assisté de Marion Lelay, de Jean-Christophe Pinazas et Valérie Ayestaraï qui réalise l'émission. Ah, ça y est, la première décennie du siècle est une affaire qui est pliée. D'ici quelques années, les historiens et nos enfants nous présenteront l'addition que l'on connaît, hein, gaz à effet de serre, déforestation, pesticides, PCB, j'en passe des meilleurs, marée noire, indécence des banquiers, etc. On espère que nos historiens nous donneront aussi quelques bons points pour l'énergie solaire, l'éolien, le tri sélectif, l'isolation des logements, le moratoire sur les OGM, le contrôle des produits chimiques, bref, des graines de conscience, puis des actions qui germent ça et là et qui nous rappellent que nous avons une seule planète et qu'il est temps de l'habiter en bon père de famille, comme on dit. Notre siècle avait 10 ans, mais il a surtout la vie devant lui et toutes les raisons d'y croire. Tenez, prenez Stéphane Hessel, évidemment, grand bonhomme, la preuve par 93 ans que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Hessel et son petit bouquin qui interpelle les enfants du siècle. Alors, c'est pas du tout le côté râler sans rien faire, ça on connaît. Non, il nous dit indignez-vous, engagez-vous et surtout ne restez pas indifférent. Et malgré donc des voyants qui sont bien dans le rouge, nous sommes quand même d'incurables optimistes lucides et on serait tenté d'ajouter aussi imaginer. Imaginez-vous une tomate qui a du goût, un artichaut, des épinards élevés sans pesticides. Imaginez-vous des océans remplis de poissons, la morue au large de Terre-Neuve, des saumons, des anguilles dans les rivières. Et si pour en arriver là, il suffisait de se convertir au stock de quinoa. Au steak de quinoa. Imaginez-vous le bonheur d'aller aussi à pied ou à vélo. La ville à plein poumon, les plantes sur les murs et sur les toits, les parcs et les jardins partagés, c'est pas forcément l'utopie du tout. Imaginez-vous donc des voitures polluantes que l'on dépose à l'entrée de la ville. Ça s'appelle une zone d'action prioritaire pour l'air. Et ça commence l'année prochaine à Lyon, Grenoble, Clermont, Aix-en-Provence, Saint-Denis et Paris. Les villes et les collectivités avancent beaucoup plus vite qu'on ne le croit. Imaginez qu'on arrivera aussi à changer les indicateurs économiques, car c'est la clé du problème, les façons de faire de la politique avec d'autres formes de représentativité. Imaginez qu'on parlera plusieurs langues et qu'on dira bonjour aux étrangers. Oui. Imaginez-vous le bonheur dans la diversité humaine et naturelle. Imaginez un taux de croissance de notre richesse intérieure à deux chiffres. Alors, imagineur de solutions, ça ferait un beau métier. Et chiche, pour 2011, on met sur pied notre Conseil national de l'imagination. Avant de retrouver Jean-Marie Pelt pour l'actualité et puis les vœux, on va parler des abeilles. Parce que les oiseaux tombés du ciel, là, ces derniers temps, qui se ramassent à la pelle, ça, on a bien compris, on n'a pas encore les causes. Mais les abeilles, elles n'ont pas attendu. Aujourd'hui, dans notre actualité, donc toute une série de facteurs qui tuent les abeilles, on le sait. Pesticides, virus, champignons, manque de nourriture, frelons asiatiques et une étude récente aux États-Unis, mise en avant par Yves Miseret du Figaro, nous dit que les fleurs sont aussi des foyers de contamination pour les abeilles. Le pollen ramené à la ruche devient un foyer de transmission de virus pour l'ensemble de la colonie. Alors, l'infection de pollinisateurs sauvages ou domestiques par des virus, c'est pas en soi une totale découverte. Mais on va se tourner vers vous, Henri Clément, donc président de l'Union nationale des apiculteurs de France. Qu'est-ce que l'on a identifié en fait de nouveau ?
C'est-à-dire que des chercheurs américains ont démontré qu'effectivement les abeilles, en butinant sur les fleurs, déposaient des virus qui après circulaient au sein des populations d'insectes pollinisateurs, y compris les abeilles. Et ça, c'est vraiment pas une grande découverte. Hein. En fait, on sait très bien que depuis la nuit des temps, les abeilles butinent les fleurs, pour notre plus grand bien, pour en faire du miel et pour polliniser les plantes et les arbres, donc nous permettre d'avoir des fruits. Et en pollinisant ces fleurs, effectivement, elles peuvent rencontrer des virus, puisque des virus, il y en a partout. On en a sur nos visages, on mange dans les salades, il y en a partout. C'est même des éléments de vie, d'une certaine façon. Et ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est qu'on s'aperçoit que de très nombreux virus ne sont pas dramatiques pour les populations d'insectes. Simplement, ils le deviennent quand l'insecte est affaibli par différents facteurs, que ce soit les pesticides, que ce soit le bouleversement climatique, un manque de provisions ou d'alimentation, etc. Et là, ils engendrent des maladies qui peuvent être dramatiques pour les colonies, pour les populations d'abeilles.
Alors, qu'est-ce qu'il y a véritablement de nouveau ? Parce que là, on nous dit en fait que ces abeilles vont déposer leurs excréments sur des fleurs, et puis après, il va y avoir contamination, mais ça, c'est nouveau ou pas ?
Ben, il n'y a rien de nouveau. C'est que ça fonctionne comme ça depuis la nuit des temps. Simplement, ils ont pu, avec les moyens d'aujourd'hui scientifiques, démontrer que c'était une réalité. Mais il n'y a rien de neuf. J'ai l'impression qu'on a découvert l'eau tiède.
Voilà. Alors, ce qu'il y a peut-être aussi d'intéressant, c'est que ça nous rappelle en tout cas que la nature n'est pas cloisonnée avec, on va dire, l'abeille domestique d'un côté, les sauvages de l'autre. Non, tout ceci donc, appartient à un même écosystème.
Exactement. Et ce qui est plus dramatique, c'est que, par exemple, parallèlement à cette étude, il y a une autre étude qui indique qu'en 20 ans, il y a 4 populations de bourdons dont les populations ont été réduites de 90%.
Alors,
ça, c'est inquiétant.
En fait, Henri Clément, est-ce que cette étude-là n'intervient pas pour nous dire aussi, alors oui, cause multifactorielle, ça je sais que vous êtes assez d'accord, mais peut-être pour minimiser aussi l'importance d'autres produits dits phytosanitaires ?
Ben, c'est-à-dire qu'en fait, on essaie depuis des années de trouver des causes de façon en partie à dédouaner la responsabilité des produits phytosanitaires. On a eu le cas de Nosema serranae en Espagne qui a été découvert et certains ont dit ça y est, on a trouvé la cause de tous nos maux. Et puis on s'est aperçu que Nosema serranae, elle était dans toutes les colonies d'abeilles quasiment et qu'elle n'engendrait pas de problème, sauf si, comme je vous le disais, les colonies sont confrontées à des situations difficiles, soit en termes d'intoxication phyto, soit en termes de pénurie de pollen ou de nectar, soit en position de grosse population de varroa, etc. Et donc, le Nosema serranae est une hypothèse qui, aujourd'hui, n'a pas vraiment cours dans le milieu scientifique. Quand on a eu le Consapi mondial l'année dernière à Montpellier, que nous avons organisé, où il y avait 500 chercheurs, 10 000 apiculteurs venus du monde entier, et parmi les chercheurs, les plus grands chercheurs, comme John Pettis, biologiste de l'abeille américain éminent, les causes sont de plusieurs ordres, effectivement, mais dans l'ordre, il y a la dégradation de l'environnement, les produits phytosanitaires, et pour Pettis, même les problèmes de pathologie sont marginaux par rapport aux ces deux premières causes. Alors après, il y en a d'autres, comme le frelon, comme le bouleversement climatique, etc. Mais les deux causes sur lesquelles on peut intervenir, c'est les pesticides et l'évolution de notre environnement qui se dégrade avec la monoculture, avec l'absence de haies, avec, etc.
Que peut-on souhaiter aux abeilles en 2011, Henri Clément ?
Mais espérons que l'année 2011 permettra quand même de prendre de bonnes décisions, notamment, surtout, pour préparer l'évolution de la PAC, qui sera déterminante. Par exemple, le miel du Gâtinais, qui était composé de sainfoin, aujourd'hui le sainfoin a complètement disparu de nos campagnes, ce qui est une erreur, parce que même l'INRA a sorti un rapport indiquant que le sainfoin est une plante fabuleuse pour les éleveurs. Eh bien, ce serait bien qu'on retrouve du sainfoin plutôt qu'on importe des tourteaux de soja du Brésil.
Merci Henri Clément, bonne miellée, vive les abeilles et Jean-Marie Pell dans quelques instants. Voilà, pour faire plaisir à Jean-Marie Pelt, en 1977, Jean-Marie Pelt avait 10 ans, c'était donc Linda Ronstadt, et choisie par Muriel Pérez. Bonjour cher Jean-Marie.
Bonjour Denis, bonjour et meilleurs voeux à tous.
Eh bien oui, vous aussi, et je sais que votre neige a fondu, parce qu'on était vraiment sous un mètre de neige en Lorraine chez vous. Est-ce que vous êtes, Jean-Marie, un peu morose, comme nous l'a démontré récemment un sondage ?
Oui, j'ai été frappé de ce sondage où il apparaît que les Français sont les plus moroses de tous les nationaux de tous les pays, ce qui n'est pas tellement étonnant. Je me suis posé la question pourquoi. Alors, il y a quelque chose qui, moi, m'intrigue beaucoup et dont on ne parle absolument jamais, c'est le fait qu'on déstabilise continuellement les institutions, les statuts aussi. C'est ce matin dans la presse, arrose sur les fonctionnaires dont il faut, paraît-il, modifier le statut. C'est aussi les professeurs qui ne croient plus à leur métier et qui ne se présentent plus au concours de recrutement parce que tout change tout le temps dans l'éducation nationale. C'est aussi les juges qui sont, comme on le dit, montrés du doigt. C'est les professeurs de santé où les infirmières et les médecins dans les hôpitaux ne peuvent plus faire face tant ils sont en nombre plus restreint. C'est le pôle emploi dont on réduit le nombre de fonctionnaires alors qu'ils n'ont jamais eu autant de travail. Alors, tout ça est quelque chose que je trouve très pathologique. Au nom de la réforme, on finit par tout déstabiliser, les repères se perdent, les gens n'ont plus leurs repères et par conséquent sont anxieux. Alors, je reprendrai volontiers un des slogans de l'émission, ne pas aller trop vite, s'offrir la possibilité de ne pas aller vite et de réfléchir avant d'agir et de sortir de cette fébrilité et de cette agitation qui est profondément déstabilisant.
Alors nous allons y veiller, cher Jean-Marie, en l'année 2010, qu'est-ce que l'on peut dire d'un point de vue écologique aussi ?
Ben, écoutez, sur le plan de l'écologie, mais je veux dire un mot aussi parce que nous avons appris à l'heure qu'il y avait de nouveau des otages pris.
Oui.
Alors ça, c'est très inquiétant. Bon, je pense qu'il faudra que tous les pays du monde, tous, y compris les pays musulmans, se soudent pour arrêter les dégâts du radicalisme et de l'intégrisme islamique parce que sinon les tensions ne cesseront d'augmenter. On voit ce qui se passe pour les chrétiens dans de très nombreux pays et ceci est tout à fait inacceptable. Et moi, je vous dirai à ce point de vue deux choses. La première chose, c'est qu'il faudrait absolument que les musulmans modérés, qui sont très largement majoritaires, donnent de la voix et qu'on les entende. Et la deuxième chose, c'est que nous avons tous des musulmans auprès de nous. Nous ayons avec eux des relations amicales, paisibles et positives. Moi, j'ai plusieurs familles musulmanes autour de moi et bon, nous nous entendons admirablement bien. Il faut pousser les feux pour que l'esprit de paix finisse par l'emporter. Alors, pour l'écologie. Bah, écoutez, pour l'écologie, je me pose une question. 2011 va être une année que les Français adorent. On va se poser la question, qui va être le président de la République ?
Oui. Alors ça, on l'adore. On aime ça.
On a même inventé un nouveau jeu en 2010, c'était qui va être Premier ministre ? On n'avait jamais inventé ce jeu-là. Mais ça, nous adorons ça.
Oui.
Alors je crains fort qu'en 2012, l'écologie soit beaucoup moins présente qu'elle ne l'était en 2007, lorsque Nicolas Hulot a mené une action tout à fait remarquable et tout à fait estimable qui a abouti au Grenelle.
Mais il a obligé effectivement les politiques à se positionner sur ce thème-là.
Absolument. Ouais. Et je ne suis pas sûr qu'ils se positionneront de nouveau en 2012 parce que dans le monde politique, on parle, il faut bien le remarquer, de moins en moins de l'écologie. Les Verts ne sont pas non plus en ordre de bataille. Donc je crains que l'écologie soit moins présente. Alors, faut-il que l'écologie soit plus présente ? Je dirais, il faut surtout qu'elle soit encore présente, parce que l'écologie, ce n'est pas une question de mode. Nous venons de terminer une année 2010 qui a été marquée par de très nombreuses catastrophes naturelles. Les agences d'assurance et de réassurance en ont dénombré 950 cette année, alors que pour les 30 dernières années, la moyenne, c'était 615. Donc, il y a un changement climatique incontestable.
Et ça, non, c'est important que vous le disiez, parce que ce sont donc des réassureurs. Hein, c'est Munich Re qui a donc sorti ce rapport. Donc, ce n'est pas exactement des écologistes, mais ils savent très bien combien ça leur coûte.
Tout à fait.
Et dedans, on est bien d'accord qu'il y a des catastrophes qui ne sont pas liées au réchauffement climatique, puisque lorsque vous avez un tremblement de terre, a priori, ce n'est pas ça. Mais quand même, 950, donc cette année, et la moyenne des 30 dernières années, c'était bien 615.
Tout à fait. Et Le coût des opérations, ça coûte 130 milliards de dollars, donc près de 100 milliards d'euros. C'est des chiffres tout à fait extraordinaires. Ça coûte aussi pas loin de 300 000 vies humaines. Alors cette année, ça a été gonflé par la catastrophe d'Haïti, mais il faut se rappeler que la canicule en Russie, ça a été 56 000 morts. Donc voilà, le changement climatique, il est bien là. Mmh. Même si nous jugeons le climat en fonction de notre météo, ce n'est pas parce que nous avons eu un hiver qui a commencé très tôt et qui a été très froid, de même d'ailleurs qu'en Amérique du Nord, qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. L'Office météorologique mondial a annoncé il y a quelques jours que 2010 serait probablement la troisième année la plus chaude depuis que l'on prend les températures, c'est-à-dire 1850. Donc le réchauffement est une réalité. Et donc on ne peut pas faire l'impasse des engagements qu'on a pris. On a pris trois engagements. On a pris l'engagement d'augmenter jusqu'à 20% la part des énergies durables dans les énergies consommées en France. Et ceci est un chiffre qui est valable pour toute l'Europe. On a pris toujours au niveau européen la résolution de diminuer de 20% en 2020 les dégagements de gaz à effet de serre, et on a pris toujours au niveau européen la résolution d'économiser 20% des énergies. Bon, parti comme on est, oui, alors qu'on est en train de rogner sur le solaire, de rogner sur l'éolien, de revenir en arrière par rapport aux engagements du Grenelle, il n'est pas sûr que ces engagements soient tenus. Il faut que ces engagements soient tenus. Ce n'est pas que je suis un maniaque de l'écologie. Tout le monde a bien compris que ce n'est pas mon cas et que je ne suis pas un ayatollah. Mais je redoute tellement ce monde médiatique dans lequel nous venons, où les modes se succèdent à toute vitesse, et puis tout d'un coup on passe à autre chose, et puis c'est fini, on a oublié. Il y a un an c'était Copenhague, maintenant plus personne s'en souvient. Donc il faut qu'on soit tenace et persévérant.
Et tenez, on va cliquer aussi sur le bio, parce que là, c'est très intéressant. L'objectif du Grenelle, c'est d'arriver à 6% de surface agricole en 2012, 20% en 2020. Et qu'est-ce que l'on constate? Une diminution là, des crédits d'impôt. C'est le Sénat qui l'a voté il n'y a pas longtemps, là.
Oui, il a ramené le crédit d'impôt de 4 000 euros à 2 000 euros. Donc, ça va décourager peut-être des agriculteurs qui voudraient passer au bio. C'est, à mon avis, tout à fait regrettable. Voyez-vous, j'ai passé mon réveillon de Nouvel An avec ma collègue Paul Vasseur, qui est l'une des deux ou trois meilleurs spécialistes de l'écotoxicologie en France, qui est une de mes successeurs à l'Université de Metz, et on en a énormément parlé des dégâts que fait la chimie sur la santé. Bon, c'est très inquiétant. Il faut absolument diminuer les quantités de pesticides chimiques utilisés en agriculture. Il le faut impérativement. On avait décidé au Grenelle de choisir pour l'horizon 2018 une réduction de moitié. Si on n'encourage pas le bio, on n'y arrivera évidemment pas. Mais je suis aussi frappé que ce soit le Sénat qui ait pris cette décision de réduction des subventions au bio. Et je me suis dit décidément, ce Sénat est quand même très conservateur.
Oui, et puis donc représente aussi un certain nombre de lobbies de l'agriculture, on va dire, intensive, traditionnelle, et touchant eux-mêmes d'ailleurs les subsides de la PAC.
Tout à fait.
Et, pour une partie seulement, bien sûr.
Ce que je trouve tout de même embêtant, c'est que le développement durable a tellement de mal à s'installer au cœur de l'agriculture. Je vois tant de paysans qui sont partants, mais c'est des petits paysans. Oui. Les très gros agriculteurs, les très gros céréaliers de la Beauce, de la Champagne, ils sont pour que tout continue comme avant, pour que la PAC leur rapporte beaucoup d'argent. J'ai tout ça, il faut que ça change aussi.
Alors merci à vous Jean-Marie, parce que là, on va poursuivre avec un sujet que vous avez écouté sur le gaz de schiste. C'est
oui,
un nouveau...
Je connais le problème.
Ben voilà, donc on va en parler.
Alors on dit bonne année quand même.
Mais oui, mais bien sûr qu'on dit bonne année. Voilà.
Beaucoup de choses positives se font. Tout n'est pas perdu.
Ah non, loin de là. Merci Jean-Marie, à la semaine prochaine.
Au revoir.
C'est au de mon amour, Denis Chessou.
À toi perdu dans ces rivages, les marécages anciens qui dans la brume, enfant si brune, recherchaient ton chemin dans les fougères, toi qui t'y perds. n'en reviens plus, t'adresses nues en vain, qui n'entend plus les voix au loin appeler ton nom sans fin. Dans les fougères, dans les fougères, où se tenait ton assassin. Toi que la nuit avait surprise, referme en son écrin, qui t'enfuyait à travers bois, quand soudain trébucha dans les fougères, dans les fougères. As-tu senti là sur ton sein l'arme blanche au sang? As-tu trouvé en toi la foi une dernière fois? Toi qui reposes dans ces ravines que la rosée fleurit, toi retrouvé comme endormi l'enfant sauvage dans les fougères, dans les fougères, dans les fougères.
Un petit gars de Dijon plein de talent, c'était Bastien Lallemand, choisi par Muriel Pérez. Les fougères, ça va très bien parce qu'en fait, si vous voulez, lorsque les fougères après se compriment, se compactent, tout ceci devient un jour, avec les végétaux, eh bien devient du pétrole ou bien du gaz de schiste. C'est notre dossier. Oui, il va falloir vous faire à ce mot-là, gaz de schiste Kezako. Bon, d'ici 2030, si vous voulez, les énergies fossiles dans le monde vont représenter 70 à 75% de notre énergie. Aujourd'hui, c'est à peu près 85%. Alors, les énergies renouvelables, heureusement, vont augmenter. Mais la demande énergétique va croître parce que la population augmente de 1% par an. Les pays émergents ou émergés vont consommer de plus en plus, ce qui veut dire que le charbon, l'huile et le gaz resteront en tête des hit-parades, qu'on le veuille ou non. La course au gaz de schiste, elle, vient de commencer en France. Alors, elle existe déjà aux États-Unis, au Canada, avec d'ailleurs des contraintes environnementales qui ne sont pas très contraignantes. C'est un véritable Eldorado. Les prix du gaz se mettent à chuter. Et c'est, on va dire, la grande découverte énergétique de cette fin décennie. Alors, la nature fournit donc ces hydrocarbures liquides ou gazeux. Et pour nous en parler, Roland Viali est donc géologue à l'Institut français du pétrole énergie renouvelable. On parle de gaz de schiste non conventionnel. Mais peut-être avant, donc Roland Viali, qu'est-ce que c'est que du gaz conventionnel?
Comment est-ce que fait la nature pour produire ces hydrocarbures? C'est relativement simple. C'est exactement comme une recette de cuisine. Il faut avoir les ingrédients. Donc, en fait, il faut une roche mère qui contient de la matière organique. C'est en fait des bouts de plantes, des bouts de parties d'animaux qui se sont fossilisés et qui n'ont pas été dégradés donc, par une oxydation. Ce qu'on appelle, nous, cette roche-mère, par augmentation de la température et de la pression. Alors, quand on dit augmentation de la température, ça veut dire quand on atteint des températures de 80 degrés, on va commencer à fournir de l'huile. Quand on atteint des températures de 110 degrés, on va fournir du gaz. Ça veut dire que c'est des roches qui ont été relativement enfouies dans des grands bassins sédimentaires. Quand on parle de relativement enfouies, c'est 3 à 4 km, genre le bassin de Paris, on a de l'huile sous nos pieds. Ces hydrocarbures sont toujours plus légers que l'eau. Le gaz est encore plus léger que l'huile, mais déjà l'huile est plus légère que l'eau. Donc, ont tendance à migrer vers la surface. Elles migrent en direction d'une roche poreuse et perméable, ce qu'on appelle un réservoir. C'est bien pratique parce que c'est là-dedans que se concentrent les hydrocarbures et c'est là-dedans qu'on produit les hydrocarbures conventionnels.
Je veux dire que c'est presque facile à ramasser, quoi. En tout cas à pomper.
Alors, c'est pas si facile, mais c'est la solution la plus facile. C'est pas tout, il faut aussi une couverture parce que, comme je vous l'ai dit, donc les hydrocarbures sont plus légers que l'eau, donc ont tendance à monter vers la surface. S'il n'y a absolument rien pour les empêcher, ils arrivent à la surface, ils sont réintégrés dans la biosphère.
Alors, Roland Viali, les gaz de schiste, eux, ils sont répartis de manière diffuse dans des couches géologiques et ne peuvent pas être exploités de manière classique.
Alors oui, le gaz de schiste, ou même plus généralement les gaz non conventionnels, ce sont des gaz qui ne sont pas dans des bons réservoirs. C'est-à-dire qu'en fait, ces réservoirs sont très peu poreux, voire totalement non poreux et non perméables. Donc, il va falloir créer cette perméabilité de façon totalement artificielle pour que le gaz puisse migrer en direction du puits et qu'on puisse produire ce gaz.
Alors, ça se passe dans le schiste, pourquoi ?
Parce que ce qu'on appelle les roches mères, c'est généralement des roches argileuses. Ces roches argileuses, ce qu'on appelle, je dirais assez improprement les schistes, sont des roches imperméables.
Très compactes.
Très compactes. Et qu'il va falloir fracturer pour pouvoir produire ce gaz.
Alors le principe maintenant, qu'est-ce que l'on fait pour essayer de récupérer donc, ce gaz de schiste donc, de manière non conventionnelle ? On fait d'abord un grand trou ?
Dans les premiers temps, c'est-à-dire il y a une dizaine d'années, c'était des puits verticaux classiques de l'industrie pétrolière. Maintenant, comme ce sont des roches non poreuses et non perméables, il faut que le puits rencontre cette roche sur de longues distances. Quand on dit de longues distances et qu'on fait des forages horizontaux, ces forages peuvent faire 1, 2, voire 3 kilomètres. Donc ce forage va rencontrer, va recouper cette roche pendant 2 ou 3 km et permettre de produire les hydrocarbures.
Il faut aussi faire ce qu'on appelle une fracturation hydraulique.
Alors ensuite, ça ne suffit pas de faire un forage horizontal. C'est-à-dire qu'on aurait une venue de gaz, mais de façon, je dirais, très diffuse et en tout cas pas commerciale. Donc il va falloir fracturer. C'est-à-dire qu'on va injecter de l'eau sous pression. Et on va, en fait, fracturer cette roche. Alors, attention, ce n'est pas du tout l'équivalent d'un séisme. On crée des fissures. En gros, pour donner une idée aux auditeurs, c'est sur à peu près 100 ou 200 mètres autour du puits. En même temps que cette eau, là, on injecte du sable avec cette eau, un sable très fin.
À très haute pression, tout ça.
À très haute pression, oui. Alors, la pression dépend directement de la profondeur.
Bien sûr.
C'est de l'ordre de quelques centaines de bars.
D'accord.
Donc, on injecte ce sable. Ce sable reste dans les fractures. Et quand la fracture a tendance à se refermer, le sable reste et le gaz peut migrer en direction du puits.
Toute la population Shaddock pompait. Il pompait dans la joie. Il pompait dans l'allégresse.
Alors, ce que l'on entend, c'est qu'il faut quand même beaucoup d'énergie. Il faut injecter à la fois de l'eau et des produits chimiques. Donc, quels sont quand même les risques ? Et d'un point de vue écologique, pour vous qui êtes aussi spécialiste, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ?
Effectivement, donc, en gros, pour ce qu'on appelle le fluide de fracturation, c'est 95% d'eau. Il y a en gros 4% de sable. Et puis, il y a un peu moins de 1% qui sont constitués par des produits chimiques, ce qu'on appelle des additifs. Mmh. Alors, c'est quoi ces classes d'additifs ? C'est en fait des biocides qui vont empêcher le développement des bactéries, qui risqueraient d'obturer un peu le puits. Et puis, on met des produits chimiques qui vont permettre d'avoir une fracturation plus efficace.
Mais c'est quand même très consommateur d'eau.
En gros, pour un puits horizontal dans un champ classique aux USA, c'est de l'ordre de 8000 à 12000 mètres cubes d'eau. C'est à peu près 4 piscines olympiques. Et il faut bien voir qu'un puits, c'est 10 000 mètres cubes que vous allez utiliser. C'est une bonne fois pour toutes pour le puits. C'est dans les 2 ou 3 premiers jours de la vie du puits. C'est-à-dire qu'on fait les fracturations. Et puis après, c'est fini pendant 10 ans. On a fait la fracturation et on arrête.
Donc ne sert qu'une fois.
Ça ne sert qu'une fois. Enfin, en tout du moins, on a fait la fracturation une fois et ensuite on produit pendant des années.
Et on la récupère, cette eau après ?
Alors, une grande partie était récupérée, bien sûr, parce qu'une fois qu'on va commencer à pomper, c'est l'eau qui va revenir, bien sûr. On a dans les quelques premières heures, on a de l'eau et du gaz. Et puis après, ce qu'on espère, c'est qu'on n'ait plus d'eau parce qu'on ne la vend pas et on récupère le gaz. Cette eau revient en surface. On ne peut pas en faire n'importe quoi. D'abord, on va la réutiliser parce que généralement, on ne fait pas qu'un seul puits. Il faut faire beaucoup de puits. Donc, on récupère cette eau. On la met dans un bassin de décantation parce que c'est de l'eau qui revient avec des impuretés, des particules d'argile, du sel. On traite cette eau et une grande partie de cette eau est réinjectée dans le puits suivant.
Alors pour vous, Roland Viali, quels sont quand même les risques de cette affaire-là ?
Je ne parlerai pas de risque, je dirais quelle est l'empreinte écologique de cette extraction. En fait, il y a deux grands aspects à regarder. D'abord, je dirais l'empreinte sur le sol, parce qu'effectivement, contrairement au gisement classique, où avec un nombre de puits relativement restreint, on peut produire beaucoup.
Là, il en faut beaucoup des puits.
Là, comme c'est d'une roche perméable et non poreuse, ce qu'on appelle le rayon de drainage est très faible.
Oui.
Donc, il va falloir faire
des petits trous de nombreux partout.
Puits. Quand on dit de nombreux puits, il ne faut quand même pas exagérer, c'est de l'ordre de 10 à 15 par kilomètre carré.
Et avec les infrastructures qui vont avec les routes, etc.
Alors, et les infrastructures qui vont avec. Oui. Alors maintenant, pour réduire d'abord les coûts et puis pour avoir une surface utilisée beaucoup moindre, on sait faire ce qu'on appelle des clusters de puits, c'est-à-dire qu'à partir d'une plateforme de forage relativement restreinte, qui fait peut-être un hectare et demi, on peut faire jusqu'à 15 puits.
Et la France, donc, elle aussi, regorge de ce gaz de schiste ?
En tout cas, il n'y a aucune raison géologique qui fait qu'on aurait ces caractéristiques qu'au niveau des USA. On retrouve ces bassins au Canada, bien sûr, mais on le retrouve aussi en Europe et on les retrouvera en Chine ou en Inde. Dès qu'il y a un bassin sédimentaire avec une roche mère argileuse, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas développer donc, des gaz de schiste.
C'est pour ça qu'on parle vraiment d'une redistribution des cartes de l'énergie au niveau mondial.
Oui, c'est une redistribution du fait qu'on pourrait trouver ce type de réserve et de ressources, on pourrait le trouver dans n'importe quel bassin sédimentaire. Mmh. Alors ça aussi, donc, un aspect un peu géopolitique, car pour beaucoup de pays qui sont totalement dépendants pour leur approvisionnement, c'est intéressant, même si c'est économiquement un tout petit peu plus cher, de produire au moins une partie de son gaz.
Et c'est pour ça que la France est aussi intéressée.
Alors, la France est aussi intéressée parce que ben, ça serait toujours ça de qu'on n'importerait pas.
Tu as un boudoir plein de boudards, les bougies dansent dans leur bougeoir. Ça sent bon, c'est sans histoire, ça ruisselle de ta fata, c'est rempli de photos de toi qui sommeille devant la glace. Tu as un boudoir plein de Bouddha. Et moi, je viens pour le gaz. Tu as un vrai divan de roi, un vrai divan de diva, du Porto que tu rapportas de la porte des lilas. T'as un petit chien et un grand chat, un fono qui joue du jazz. Tu as un vrai divan de roi. Et moi, je viens pour le gaz. Et chez toi, il y a le plombier, il y a le bedeau, et il y a le facteur, le docteur qui fait le café, le notaire qui sert les liqueurs, il y a la moitié d'un artilleur, il y a un poète de Carpentras, il y a quelques flics, oui, puis la main de ma soeur, et tout ça est là pour le gaz. Allez-y donc tous, rue de la Madone, c'est pas grand, non, mais il y a de la place. Allez-y donc tous, rue de la Madone, et dites bien que c'est pour le gaz.
Vous avez vu quand même cet esprit d'à-propos sur France Inter, c'est incroyable. Hein. En fait, c'était à 13h30 qu'on a fait ça avec Valérie Ayesta. Elle s'est dit, tiens, tu vas me sortir le gaz de Brel. Oui, absolument. Alors, on va donc avoir un nouvel éclairage à présent. On reste dans ce dossier, un gaz de schiste non conventionnel, avec Corinne Lepage, députée européenne, avocate, présidente de CAP21, avec donc ce regard qui va être différent. La course au gaz de schiste est partie aux États-Unis, au Canada, ça on l'a vu. La production classique déclinait dans les années 80. Et même si c'était plus compliqué à extraire avec la technique de forage horizontal, bah maintenant, ça y est, ça fonctionne. Les prix ont largement diminué. Corinne Lepage, quelle est votre réflexion sur ce thème ?
Je crois que d'abord, il faut bien montrer que c'est un sujet extrêmement important, à la fois sur un plan global et sur un plan local. Sur un plan global, parce qu'il faut bien comprendre que si nous nous lançons, et c'est déjà fait, comme vous le rappeliez, cher Denis Chessou, il y a un instant, au Canada ou aux États-Unis, dans l'exploitation du gaz de schiste. Cela veut donc dire que nous allons en rajouter une louche sur les réserves d'hydrocarbures dont nous allons pouvoir disposer au cours des années qui viennent. Et que par conséquent, l'idée selon laquelle le peak oil serait derrière nous, ou nous serions en plein dedans, deviendrait alors une idée fausse, puisqu'il y aurait, mais les spécialistes peut-être me démentiront, grosso modo 90 ans de réserve de gaz de schiste à minima devant nous. Donc on change complètement la vision des choses. Ça veut donc dire que toute l'argumentation, je parle là changement climatique bien sûr, tendant à dire de toute façon il n'y a pas le choix à aller vers l'efficacité énergétique, la sobriété énergétique et les énergies renouvelables, parce que de toute façon, le fossile, hydrocarbures, je ne parle pas du charbon, mais hydrocarbures et gaz, bah, on arrive au bout, ou tout au moins, il y en aura de moins en moins. C'est un raisonnement qui ne tient plus la route.
Donc, ça veut dire que ça remet en cause la transition énergétique.
Bah, complètement, bien entendu, évidemment. Et on est en face d'un monde pétrolier qui, après avoir fait du négationnisme sur le changement climatique pendant 25 ans, après avoir créé une forme de pénurie, est maintenant en train de nous entraîner vers un nouveau monde, qui est celui du gaz de schiste, tout ceci pour perdurer et empêcher que les nouveaux entrants, si je puis dire, sur le marché énergétique, c'est-à-dire le renouvelable et tout ce qui est les négawatts, hein, pour parler comme oui, notre ami Salomon, eh bien, tout ceci, bien entendu, va être beaucoup plus difficile et moins rentable parce que les investissements qui sont faits sur le gaz de schiste n'ont rien à voir avec ceux qui sont faits sur les ENR.
C'est-à-dire que l'on va être dans le mouvement du XXe siècle tout en étant au XXIe siècle. C'est-à-dire qu'en
exactement
fait,
ça. On continue à se gaver aux hydrocarbures. C'est-à-dire qu'on continue à en rajouter une louche Alors, quand je vois ce qui s'est dit à Cancun, cette solidarité, j'allais dire, des pays du Sud, qui a fait quand même qu'on a eu un accord à Cancun, même si en France, visiblement, tout le monde s'en est complètement moqué. Hein, c'est comme si c'était rien passé. Eh bien, visiblement, un certain nombre de gens, et qui sont toujours les mêmes, hein, qui sont les lobbies d'hydrocarbures, ont décidé qu'on allait continuer comme si de rien n'était.
Voilà. Maintenant, on va revenir effectivement en France. Donc, aspect local, un certain nombre de permis de prospection donc, ont été délivrés. Ça se passe, on va dire, pour le gaz de schiste dans le sud-est de la France, donc là où il y a évidemment, on va dire, du schiste, c'est la clé de l'affaire. Qu'en est-il ? Est-ce que la population est informée ? Comment ça se passe, hein, un permis de recherche ?
Chacun a pu noter que tout ça s'est fait dans une très grande modestie, n'est-ce pas ? Modestie médiatique à laquelle nous ne sommes pas nécessairement habitués. Je veux dire par là que personne n'en a évidemment parlé. Ce sont des permis qui ont été signés par Jean-Louis Borloo avant qu'il quitte le ministère de l'écologie, en grande discrétion. Le permis du Sud-Est auquel vous faites allusion, c'est quand même près d'1% du territoire français, 4 500 km² et quelque chose de plus. Les populations n'ont évidemment pas du tout été informées en amont, naturellement pas. Et il n'y en a pas que là, parce qu'il y a également des projets dans le bassin parisien, à la limite de l'Île-de-France et de la Champagne.
Alors qu'est-ce que l'on peut craindre en fait ? Parce qu'on peut se dire aujourd'hui que les firmes pétrolières ont quand même été chaudées, les firmes gazières aussi, et donc elles n'ont pas intérêt à faire tout et n'importe quoi. Donc qu'est-ce que l'on peut craindre réellement ?
Elles n'ont pas intérêt à faire tout et n'importe quoi, mais elles ont intérêt à pouvoir perdurer dans leur être et deuxièmement à travailler au coût le plus modique possible. Le problème avec l'exploitation du gaz de schiste, il est triple. Le premier, c'est un problème de qualité de l'eau. Parce que toute l'eau qui va être injectée ne va pas être pompée. Ça veut dire donc que vous allez avoir une eau extrêmement polluée, extrêmement chargée de pollution, qui va remonter dans les nappes et qui va remonter dans la chaîne alimentaire. Et c'est ce qui se passe aux États-Unis. C'est la raison pour laquelle aux États-Unis, par exemple, un certain nombre de villes, et pas des moindres, puisque la région de New York le fait, demande un moratoire, et que l'EPA, sur la pression de la population, a été obligé de lancer une grande étude d'impact qui va durer 2 ans. Donc, premier problème, c'est l'eau. J'y ajoute qu'aux États-Unis, vous avez des étendues qui sont extrêmement grandes, qu'en Europe, parce qu'il y a la France, mais il y a la Pologne, par exemple, aussi. Ce sont des zones beaucoup plus denses où les conflits de l'utilisation de l'eau peuvent être beaucoup plus violents. La deuxième question, c'est la pollution chimique, aqueuse et gazeuse, tout simplement parce que les produits chimiques qui sont utilisés...
Ce sont des biocides, nous disait Roland Viali. Hein, c'est donc des biocides.
Ce sont des produits qui sont... c'est pas pour bisounours. Hein.
Non, c'est pas neutre.
C'est des CMR, c'est des produits cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques. Vous avez tous les dérivés pétroliers là-bas, benzène, toluène et tous les autres, etc. Donc, c'est des produits qui sont toxiques, avec des risques d'émanation gazeuse, et puis retrouver des traces, même plus, dans les eaux. Donc on a un vrai problème de pollution chimique. Autrement dit, d'un côté, on fait REACH. Je rappelle pour les auditeurs que REACH, c'est ce règlement communautaire qui oblige maintenant à soumettre à autorisation les produits chimiques dangereux, voire à les interdire avec des évaluations extrêmement lourdes. Donc d'un côté, on essaye de faire les choses beaucoup mieux parce qu'on se rend compte des conséquences sanitaires de la pollution chimique, et d'un autre côté, on ouvre grand les vannes. Bon. Mmh. Et puis le troisième volet, je dirais pour tous nos amis auditeurs tellement attentifs à la protection des sites quand il s'agit des éoliennes, n'est-ce pas ? Bonjour à l'exploitation des gaz de schiste.
Oui, c'est-à-dire que dans le paysage, ça pourrait être terrible pour les cartes postales, quoi.
Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut tout arrêter. Moi, j'ai jamais été une partisane de la technologie, c'est l'ennemi, il faut surtout rien faire. Simplement, quand on se lance dans une technologie aussi lourde, à la fois sur le plan des politiques globales et des conséquences locales. On le fait après une étude d'impact extrêmement étendue, c'est-à-dire non seulement d'impact environnemental, local, mais d'impact économique, d'impact sociétal, de coûts avantages pour la collectivité dans son ensemble. Or, visiblement, ça n'a pas été fait.
Roland Viali, peut-être un petit point là, ce que disait Corinne Lepage sur l'eau, là, vous disiez pas d'accord, 10 secondes.
Disons que je ne suis pas aussi pessimiste, hein, c'est ouais. Que normalement quand on fait un forage, et quand il s'est bien fait, on isole totalement donc, les nappes phréatiques des zones où on va produire, qui sont généralement entre 1500 et 2000 mètres de profondeur, alors qu'en fait les nappes phréatiques sont dans les premières centaines de mètres. Alors effectivement, il y a eu deux ou trois cas décrits aux USA donc de dysfonctionnement.
Ah oui.
Et il y a eu effectivement mélange entre les eaux de production et les nappes phréatiques.
Corinne Lepage ?
Oui, moi, ce que je voulais dire simplement, c'est que le chiffre de 10 à 40%, j'ai sorti tout simplement des études qui ont été publiées, qui montrent qu'il y a, comme vous venez de le dire, monsieur, des grands bassins de rétention qui sont mis en place précisément pour recueillir ces eaux polluées, mais que ces bassins ne recueillent que 60 à 90% de la totalité de l'eau. C'est-à-dire qu'il y en a 40 à 10% qui n'est pas dedans. Ce sont les indications que j'ai lues sur les modes d'exploitation aux États-Unis. Alors peut-être que ce sera beaucoup mieux fait chez nous, je ne sais pas.
Ces chiffres, je les conteste absolument pas. Hein, mais ce qu'il faut dire, c'est ce qui reste, en fait, si on récupère en gros 50 à 60% de l'eau qu'on en a injectée, ça reste dans l'eau de formation. C'est-à-dire qu'on les retrouve dans les schistes et en fait, elles ne sont pas du tout dans la nappe phréatique.
Corinne Lepage, qu'est-ce que vous souhaiteriez d'un point de vue démocratique? Parce que,
il y a un vrai débat public là-dessus. Ouais. On a quand même une commission nationale du débat public. Voilà un nouvel enjeu qui est très important. Ça mérite à minima une commission nationale du débat public avant qu'on fasse quoi que ce soit. Ouais. Si vous voulez, nous, à Cap-Saint-Terre, on a lancé ce dossier il y a à peu près un mois ou un mois et demi, parce qu'on était quand même abasourdis de constater qu'un permis d'exploitation de près de 5000 km² était délivré dans le sud de la France sans que personne ne parle de ça.
Roland Vialli.
Oui, alors attention, c'est un permis d'exploration, pas un permis d'exploitation.
Oui, excusez-moi, d'exploration.
Voilà,
vous avez
c'est
raison,
ce qui est totalement différent. Ça veut simplement
dire. Vous avez raison, c'est très différent.
C'est très différent. Ça veut simplement dire que l'entreprise qui demande ce permis a le droit de faire des études. Et s'il trouve la chose intéressante, effectivement, ils demanderont l'autorisation de faire ce qu'on appelle des puits pilotes qui vont finalement valider ou non le concept.
Monsieur, vous avez raison. À ceci près qu'on voit bien qu'on rentre dans une logique et que mon propos se situe en amont de cette logique. C'est-à-dire que même si nous avons du gaz de schiste à cet endroit-là, ma question c'est, faut-il aller le chercher? Je ne dis pas forcément non. Je ne dis pas forcément oui, bien sûr. Je dis simplement, ça mérite un débat complètement transparent, complètement démocratique et parfaitement global sur les avantages et les inconvénients que cela peut présenter, indépendamment du point de savoir si on en trouve ou si on n'en trouve pas.
Merci Roland Vialli, merci à vous Corinne Lepage. Donc affaire à suivre, hein. Vous avez gaz de schiste, ça y est, faut vraiment c'est comme effet de serre, on ne connaissait pas ça il y a encore 10 ans. Bah, maintenant, ça y est. Donc si vous habitez le sud de l'Ardèche, les Cévennes, le Larzac, région parisienne, eh bien, je pense que vous allez en entendre parler. Nous en sommes, on a bien compris, qu'au stade de prospection. Aujourd'hui, dernier sujet, dans quelques instants, on va construire une villa avec des déchets. Et on va partir à Nantes. Thank you. Eh bien, une délicieuse danoise qui s'appelle Agnès Obel, qui ne vient pas de Bretagne où nous allons aller, mais qui vient, elle, du Danemark, et c'est son premier album. Oui, on va aller en Bretagne, on va aller du côté de Nantes, même franchement à Nantes. Le lieu, alors là, il faut imaginer, on est sur la rive gauche de la Loire, vous avez l'ancien atelier et chantier de Nantes, non loin la descente où les bateaux faisaient leur première brasse, hein, depuis l'île de Nantes. Et je vous parlais en début d'émission d'imagineurs de solutions. Alors, on va rencontrer Fabrice Tabary, qui est architecte, et avec lui, on va rentrer dans cette villa déchets. Qu'est-ce que c'est ? Eh ben, c'est une ode, on va dire, à la récupération et au recyclage. Quel était le pari, Fabrice Tabary, de cette maison ?
Alors, le pari, c'est pas tellement la maison en elle-même, c'est d'abord parler de prévention. Nous, ce qu'on voulait, c'était sensibiliser la population à qu'est-ce que le déchet et consommer intelligemment. Il fallait, pour ce, interpeller les gens, les faire venir massivement, et on a trouvé un moyen qui était simple, qui a été de faire une maison avec des déchets. 80 mètres carrés au sol, construite uniquement qu'avec des déchets secs, trouvés en 20 jours dans Nantes, dans les chantiers environnants, avec une équipe d'archi et de bénévoles, où on a construit, inventé cette maison et réalisé cette maison en 18 jours.
Ah oui, donc c'était très vite, c'est-à-dire 20 jours pour récupérer la matière première.
Ouais.
Et à partir de là, vous avez fait les plans ?
Alors, en même temps qu'on récupère la matière première, on envisageait le dimensionnement des pièces, la faisabilité de la maison, sa structure. Et des jeunes archis, des gens plus pointus, nous ont aidés. Et on a inventé cette maison qui a une forme assez étonnante, qui est composée de modules, dont un qui roule. Alors, on me dit pourquoi, quel intérêt ? Eh bien, simplement que ces modules peuvent être dépendants ou indépendants, au choix. Voilà, donc on peut avoir au choix une maison, ou deux maisons, ou quatre maisons.
Alors, principalement, c'est quand même le bois hein, qui compose l'ossature. Enfin, on va quand même voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc là, on est en train de marcher sur quoi, là ?
Alors là, ce sont des palettes. C'est l'élément essentiel de la maison.
Oui.
Palettes et palox. Alors, les palox, c'est quoi ?
Oui,
bah oui, ce sont des palettes qui ont des côtés et qui servent à entreposer les pommes, les poires pour les vergers. Sauf que les normes ont changé. Et quand les normes changent, eh ben, ça crée du déchet. Et du coup, ces palox sont devenus des objets encombrants qu'il fallait éradiquer.
Et dedans, là, même dans les déchetteries, on trouve une porte superbe.
Alors bah, ça, c'est une porte de maison en démolition, déconstruction.
Oui.
Et ouais, j'adore, il y a même encore la boîte aux lettres,
la
belle poignée. Donc on l'a décapée.
Ouais.
Et puis bah, du coup, on l'a réintégrée, c'est la porte d'entrée principale de la maison.
Alors là, on arrive sur un mur, on pourrait penser qu'il est en brique.
C'est de la brique, mais c'est de la brique de papier.
Ah, c'est ça.
Hein, donc on a fabriqué avec du papier mâché, des briquettes. On a percé des trous dans ces briquettes et on a enfilé des grandes tiges métalliques qui sont notamment du fer à béton pour rendre ce mur souple, quand même droit.
Ce qui veut dire que là, c'est tout un travail journalistique que vous avez recyclé, en fait.
Mais c'est exactement ça. C'est nos partenaires qui ont fait la presse. C'est tout ce qu'ils n'ont pas vendu à cause de nous qui se retrouvent en fait recyclés.
Il était un petit homme.
Pirouette, cacahuète.
Il était un petit homme qui avait une drôle de maison. Qui avait une drôle de maison.
La première impression, c'est toujours la meilleure en général, chaleur, c'est-à-dire bien-être. Hein.
Alors étonnamment, ouais, les bénévoles qui ont participé à la construction de la maison ont même été très surpris par le résultat une fois meublé et ne s'attendaient pas à quelque chose d'aussi chaleureux. Il faut imaginer la maison, hein, les murs sont patinés. Ou alors, quand je dis patinés, c'est ont été patinés par l'homme ou sont naturellement patinés. En tout cas, l'ensemble est cohérent, c'est chaleureux. Des magazines de déco s'intéressent à la maison. Ça veut dire que même avec du déchet, on arrive à faire du beau.
Qu'est-ce que ça vous inspire, ce lieu ?
C'est très design, très moderne.
Ouais.
Voilà, c'est vrai qu'on a, ça donne envie d'y dormir.
Ouais. Non, mais c'est intéressant parce que donc là, vous parlez de design, vous parlez de moderne et c'est important, ça. C'est-à-dire que ce n'est pas un lieu passéiste une seconde.
Non, et puis il a du caractère. Par contre, ce n'est pas du design anonyme.
Ouais.
Voilà, on sent qu'il y a de l'humain derrière aussi et du travail.
Alors là, vous ne le savez pas, mais on est en train de vous parler depuis les toilettes. Alors, ce n'est pas au fond du jardin. Là. Vous levez les yeux. En fait, vous les levez quasiment jusqu'au ciel. D'abord, c'est un puits de lumière. Vous avez un miroir qui est brisé au-dessus. Et ça existe, des toilettes comme ça ailleurs,
je pense que ce sont les premières chiottes au monde à avoir un plafond à 7,50
m.
Un WC aux normes PMR, hein, donc personne à mobilité réduite. Les toilettes sèches
Bien sûr, dans les toilettes sèches, oui, avec la sûre qui va avec. Alors là, on rentre dans la chambre. Il y en a combien de chambres ?
Alors, il y a deux chambres, on peut dormir à quatre.
Ah, là, je regarde par la fenêtre. Alors, évidemment, on a vu sur la Loire, on a vu sur...
Maille-Brézé.
Le
bateau, le fameux bateau militaire. Là, il y a un trois-mâts là, qui est là en stand-by pendant quelques temps, qui d'ailleurs fait le tour du monde et qui parle de développement durable un peu partout dans le monde.
D'accord. Hein.
Tout le mobilier, en fait, qui est réalisé pour la villa, l'est fait aussi avec du déchet. Hein. Oui. Parce que là, on parle de déchets partout. Hein. Que ce soit les canapés en carton, la table basse en palette.
Dites-moi, puisque vous êtes en train de visiter, vous connaissez déjà cette ville à déchets, qu'est-ce que ça vous inspire, ce lieu ?
Eh bien, écoutez, la première impression quand je suis rentrée, ça sent bon, oui. Ça craque, donc c'est une maison vivante. Et puis, surprise du résultat.
Vous pourriez vivre ?
Très agréable. Oui, pourquoi pas.
Maintenant, la maison, elle a des travers. Et certains nous disent qu'elle n'est pas bio, elle n'est pas écolo. Mais bien sûr, on n'a jamais prétendu faire une maison bio. Et trouver des déchets bio, c'est pas forcément simple. Hein.
Non, c'est pas une maison passive.
Quoi, c'est pas une maison passive non plus, bien qu'elle soit bien isolée hein, dans les chambres, il fait plutôt très bon. Donc voilà, il n'y a pas d'exploit d'abord. On ne revendique pas un exploit. Même si elle a été faite très rapidement avec des déchets, on ne cherche pas à aller dans un leader-core. Par contre, je pense que ça peut amener à plein de réflexions dans plein de domaines. Je pense qu'en autoconstruction, ça peut être une solution. Il faut que ça soit plus normalisé, plus réglementé. Il faut que les assurances nous aident, il faut que les villes acceptent ce genre de projet. Oui. Mais je pense qu'il y a véritablement des débouchés dans ce domaine-là. Alors, pas forcément commercial, on s'en fout de l'argent. Hein. Oui. C'est le fait que des gens puissent éventuellement construire eux-mêmes des maisons avec des palettes et du déchet. Donc ça peut être une idée.
Et dites-moi, la l'évier, là, comment vous l'avez récupéré, c'est bien ça.
Alors, on avait une idée, en fait, pendant la maison, c'était de faire en sorte que la maison soit accessible aux handicapés.
Ouais.
Et donc, on a eu l'idée, dans une cuve taillée, un évier, un peu comme on épluche les oranges, tu sais, quand on leur donne des formes, hein, qu'on s'embrille, ben voilà, c'est à peu près
c'est
ça.
C'est presque une demi-orange.
C'est une demi-orange coupée.
Et qu'on a recreusé encore.
C'est un puzzle belge, voilà. C'est un puzzle belge qu'on a creusé à deux pièces et qu'on a alimenté avec des robinets de jardin. Donc on a maintenant effectivement deux niveaux, un niveau enfant handicapé, un niveau adulte.
Ouais.
Dans la maison, il y a deux choses qui sont neuves. Il y a les liaisons, ce qu'on appelle les vis et les clous.
D'accord.
Ils sont forcément neufs parce qu'on n'avait pas forcément trop confiance dans les clous de récupération, donc on a dû acheter quelque chose quand même. Là, il y a la salle de bain qui est pas mal. Ouais, c'est plus parti. Attends, je ne suis pas sûr que tous l'essayent.
Oui.
En tout cas, on a l'eau chaude.
Ah oui, voilà,
ça a coulé. Voilà. Alors, c'est fait avec du cuivre, toujours pareil. Toujours des robinets de jardin. Et là, ça va fumer dans quelques secondes. Et en haut, là, on a des tubes qui ont été bouchés. On a percé des trous dedans. Et l'eau s'échappe par les petits trous. Ça fait comme la pluie.
Très bien.
Et là, ça va commencer à chauffer. Voilà, c'est parti.
Non, bah, c'est okay. Ah oui. Voilà. Arrêtez-nous ça. Voilà. Ce sera parfait.
Bon, après, il faudra nettoyer, mettre les pieds dans la rouille. Hein.
Oui.
Enfin, mais c'est l'expérience.
C'est pas forcément mauvais. Hein.
Sa maison est en carton.
Pirouette, cacahuète.
Sa maison est en carton. Les escaliers sont en papier.
Frédéric Tabary, vous, ça vous a excité parce que vous êtes un créateur, vous êtes un architecte d'intérieur depuis très longtemps. Mais au-delà de ça, quel message vous avez envie de faire passer ?
Le message reste le même. Hein. À 42 ans, je ne suis pas du tout un écolo convaincu. Il y a plein de choses pour lesquelles je ne connais pas, moi. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que j'ai rencontré des partenaires, des bureaux d'études déchets, je ne savais même pas que ça existait, il y a des gens qui fouillent tout le jour nos poubelles et qui vont vérifier qu'on a plus ou moins de plastique, etc. etc. Donc à force de rencontrer tous ces gens-là, je deviens un expert du déchet.
Oui.
Oui, je commence à faire plus attention. Et surtout, je pense qu'en faisant tous un petit peu attention, on va dans le bon sens. Voilà. Et moi, j'aimerais juste sensibiliser les gens pour que justement, on aille tous un petit peu plus loin. Et si on fait tous un petit peu attention, il n'y a pas de raison qu'on se sente mal.
Alors, cette maison, elle a donc déménagé le 2 janvier. Elle est maintenant en cours de reconstruction dans un éco-quartier de Nantes. Et puis, là, elle abritera des associations. Mais elle a mobilisé beaucoup de monde. Et c'était vraiment ça, se dire, attendez, on balance tout et n'importe quoi. Qu'est-ce que l'on peut faire ? On ne dit pas, c'est la solution, c'est pas ça. Mais une fois de plus, il y a des imagineurs de solutions et c'est pas mal du tout. D'autres qui sont contraints et forcés sont les gens qui habitent dans les bidonvilles. Hein. C'est-à-dire 1 milliard de personnes aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut ? Ils recyclent, ils fabriquent leur maison, eux aussi, avec des déchets. Mais évidemment, c'est une autre façon de faire et ces gens-là, donc, ils sont tout à fait contraints. Merci à Marion Lelay, à Jean-Christophe Pinaza, à Valérie Ayestaraï qui réalisait cette émission. Alors, de très nombreux sites que l'on doit à Anne Gouzon, hein, qui nourrit donc les sites de CO de Mon Amour et son site L'Environnement en temps réel. Je vous retrouverai la semaine prochaine avec grand plaisir. Nous serons entre autres, on retrouvera Jean-Marie Pelt et puis on va se retrouver à Los Angeles. Très intéressant, dans le Pas-de-Calais. Là, je vais y aller donc mercredi. Et retrouver son maire parce que là il fait très bien le lien entre environnement et société. Donc reportage sur Los Angeles aussi sur une autre façon de vivre sa ville. Demain à 19h54 après les petits bateaux ce sera la Tulu mon petit loup et dans quelques instants les liaisons heureuses avec Colombe Steck. Nous étions en Bretagne. Allez, on y reste.